Chapitre 44. La veille des funérailles, le capitaine reçut une lettre de sa belle-fille, qui lui offrait de reporter sur sa tête, par quelque acte qu'il lui plairait de faire dresser, le revenu que sa femme devait avoir après la majorité de Violette. « Vous perdez beaucoup, je le sais, par la mort de ma mère, » écrivait-elle, « et je serai heureuse de faire ce qui est en mon pouvoir pour amoindrir cette perte. Je n'ignore pas que son vif désir était que votre avenir fût assuré, et quelques jours avant sa mort, je lui ai dit que je ferais cette offre. Je la fais de tout cœur, et je me considérerai comme votre obligé si vous acceptez. » La réponse du capitaine fut brève et ferme. « Je vous remercie de votre offre généreuse, faite de bonne foi, j'en suis persuadé. Mais je pense que vous devez savoir les raisons qui me mettent dans l'impossibilité d'accepter quoi que ce soit de votre main. Je ne rentrerai pas à l'abbaye après les funérailles de ma femme. À dater de ce moment, vous serez ici la seule et souveraine maîtresse de toutes choses. » Et il tint parole. Il monta dans un fiacre et se fit conduire à la station de Lyndhurst, d'où il partit par le premier train pour Londres, ne confiant à personne ses plans d'avenir, ne laissant d'autre adresse que celle de son club. 6 mois plus tard, on apprenait qu'il était parti pour l'Amérique du Sud. Violette avait télégraphié pour faire revenir son ancienne gouvernante, et cette bonne et respectable personne arriva le lendemain des funérailles pour tenir compagnie à son ancienne élève, jusqu'au jour où Miss Tempest, la turbulente enfant de la forêt, deviendrait Lady Vaudrey. Le mariage devait avoir lieu dans 6 mois. Mrs. Winstanley leur avait fait promettre que sa mort le retarderait le moins possible. « Vous pouvez vous marier sans bruit, en costume de voyage. Quelque chose de joli, en soie grise garnie de velours ou de chinchilla, si c'est en hiver. Le chinchilla est très distingué. Vous irez faire votre voyage de noces à l'étranger, je suppose. » Elle se trouvait heureuse de tout décider pour les amoureux. Violette se rappelait tout cela avec une douce tristesse, trouvant une sorte de consolation dans cette pensée que sa mère l'avait aimée à sa manière. Finalement, il avait été décidé entre les amoureux qu'ils habiteraient l'abbaye. On louerait Briarwood à quelque riche amateur. Mais avant de mettre son domaine à louer, Roderick Vaudrey reçut une offre des plus satisfaisantes. Lady Mallow désirait chaque année passer quelques mois avec son père et sa mère, qui ne quittaient guère Ashbourne, où les retenaient les préoccupations agricoles du duc. Et Lord Mallow, qui aimait son île natale, mais comme une distraction, trouvait très suffisant d'y passer 6 semaines par an, et il fut enchanté de plaire à sa femme et de consentir à prendre Briarwood tout meublé pour un bail de 7 ans. Cet arrangement amical faisait profiter Lady Mallow des améliorations réalisées à son intention par son cousin quand ils étaient fiancés. Dès que Briarwood fut loué, Rory put donc considérer l'abbaye comme sa future demeure, et Violette se félicita de ne pas quitter cette maison toute pleine des souvenirs de son enfance. « J'aimerais vous montrer Briarwood avant qu'il fût loué, Vixen, » dit M. Vaudrey à sa fiancée par un matin de novembre. « Vous pouvez bien faire l'honneur d'une visite à mon pauvre vieux château avant qu'il devienne la propriété de Lord et de Lady Mallow. Voulez-vous venir prendre le thé cet après-midi avec Miss McCroke ? Soit nous irons prendre le thé. Je ne serai pas fâché de voir les changements que vous avez faits pour Lady Mabel avant votre infortune. Je pense que Lord Mallow vous sera gré de lui laisser le bénéfice de vos dépenses, au lieu d'intenter à sa femme une action pour rupture de fiançailles. Bon, je suis bon enfant. Donc, je dirai à ma femme de charge de préparer du thé, des babas, des confitures, et toutes sortes de choses que les enfants et les jeunes filles aiment à 4 heures. C'est une bonne heure, je crois, les après-midi sont si courts. Si vous êtes impertinent, nous n'irons pas. Oh si, la curiosité vous fera venir. Rappelez-vous que c'est votre dernière chance de voir la chambre de l'oiseau bleu. Il y a une chambre de l'oiseau bleu. Certainement. Avez-vous jamais connu un château de famille qui n'en eut pas ? Vixen fut enchantée de l'idée d'explorer le domaine de son fiancé, aujourd'hui sa propriété. Elle se rappelait le jour où elle y était allée avec son père. Il y avait un siècle de cela. Alors, elle ne connaissait pas encore le chagrin. Miss McCroke, toujours prête à faire ce que son élève désirait, fut ravie à l'idée de voir l'intérieur du vieux manoir. « Je n'y suis jamais entrée, » disait-elle à Roderick. « Bien souvent, je suis passée devant la grille, mais votre mère n'était pas femme à inviter une gouvernante. Elle observait strictement les lois de l'aristocratie. La duchesse a beaucoup moins d'orgueil. Je ne crois pas que Lady Jane se soit jamais pardonnée d'avoir épousé un membre de la Chambre des communes, » dit Vixen. Elle se vengeait de sa faiblesse sur les autres. Violette avait fait de vains efforts pour retrouver le malheureux Titmouse. Elle avait acheté de nouveaux poneys qu'elle conduisit pour aller à Briarwood. La gouvernante se soumettait à la Providence avec une résignation aveugle, un fatalisme digne d'un musulman. Si elle devait périr dans une voiture traînée par des poneys, la chose arriverait tôt ou tard. Rester à la maison aujourd'hui ne la garantissait pas de sa destinée de demain. Elle prit donc place dans la calèche, à côté de Violette, calme et silencieuse, tandis que les poneys, rétifs au départ, se cabraient et menaçaient d'envahir les massifs. « Ils iront très bien quand ils seront dressés, » dit tranquillement Violette, en leur administrant quelques bons coups de fouet. « Je l'espère, mais ne croyez-vous pas qu'il serait préférable de les faire dresser par votre groom avant notre départ ?» Demande inutile, car les deux chevaux étaient partis comme le vent. Roderick les attendait à la grille. Un grand feu était allumé dans le salon, au milieu duquel était dressée une table brillamment garnie. Briarwood n'est déjà pas si mal, pensa Vixen. Elle se serait encore trouvée très heureuse là avec Roderick, quoique l'abbaye fût encore 100 fois mieux. Vixen fit gracieusement l'office de maîtresse de maison. Leur conversation fut tour à tour mélancolique, plaisante et gaie. Toutes les méchancetés de Rory, tous les tours de malice de Vixen, leur revinrent à l'esprit. « Je crois vous en avoir bien fait endurer à cette époque, » dit Vixen, en se penchant gracieusement sur l'épaule de son fiancé, dont elle tirait la moustache brune. « Y a-t-il rien de plus délicieux que de tourmenter celui qu'on aime ? Soyez tranquille, j'ai l'intention de vous en faire endurer encore plus. » Ce seront des douceurs, mignonne, car je serai avec vous. Après le thé, l'inspection commença. Tout d'abord, ils admirèrent le boudoir Renaissance, préparé pour Lady Mabel. J'ai fait aussi quelques changements dans les écuries, voulez-vous les voir ? Vous savez que c'est une de mes faiblesses. Que de remontrances m'a faite ma pauvre mère sur mes goûts malheureux ! Mais quoi de plus joli qu'une belle écurie avec son odeur de trèfle et de foin nouveau ? « Les écuries sont assurément très gentilles et très utiles, mais à leur place, » remarqua Miss McCroke d'un ton sentencieux. « Mais on n'apporte pas les écuries dans le salon, » dit Vixen avec gravité. « Allons, Rory, montrez-nous cela. » Miss McCroke avait grand-peur des ruades des chevaux. Elle n'en suivit pas moins son élève avec une fidélité héroïque. Violette connaissait tous les chevaux. Elle les caressa et renoua connaissance avec eux. « Vous viendrez toutes à l'abbaye, bonne bête, » dit-elle gaiement. Une stalle, fermée par une séparation en bois, était placée tout au bout de l'écurie. En approchant, Vixen fut saluée par un hennissement sonore, qui lui parut singulièrement familier. Elle s'arrêta court, devint rouge, puis pâle, et regarda Rory qui, tout près d'elle, lui souriait. « C'est là ma chambre de l'oiseau bleu, » dit-il gaiement. Il y a quelque chose de terrible dedans. Quel cheval avez-vous là ? Un cheval qui vous portera parfaitement lorsque nous chasserons ensemble. Quel cheval ? Est-ce que je le connais ? Les hennissements et les coups de sabot continuaient, comme si l'animal avait été impatient d'ouvrir la séparation. Si vous avez bonne mémoire pour les vieux amis, je crois que vous reconnaîtrez celui-ci, dit Rory en tirant un verrou. Une tête poussa la porte et l'ouvrit. Un instant après, Vixen avait ses deux bras passés autour du cou de son vieux favori, dont les naseaux effleuraient ses cheveux en signe d'affection. « Mon bon cheval !» dit Vixen. Puis, se retournant vers Rory, « Vous m'aviez dit qu'il avait été vendu au Tatters Hall. »«
C'est vrai, mais je l'ai acheté. »«
Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?»«
Parce que vous ne me l'avez pas demandé. » »«
Je vous ai cru si méchant, si indifférent. »
C'est vous qui avez été méchante de penser que je le laisserais aller à des étrangers. Vous auriez peut-être préféré qu'il fût acheté par Lord Mallow.
Et vous m'avez gardé ce secret tout ce temps-là.
Vous voyez que je ne suis pas comme les femmes. Je sais garder un secret. Il me fallait ma petite surprise.
Vous êtes bon, lui dit-elle en lui sautant au cou. Je vous ai toujours aimé, mais il me semble que c'est à peine si je vous aimais comme vous le méritez.